Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, c'est la dernière émission de la semaine. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est la hantise des médias spécialistes, combler le vide quand il ne se passe rien ou pas grand-chose dans le domaine auquel on a dévolu ses pages ou son antenne. Heureusement pour LCP, la chaîne parlementaire française, c'est tout le contraire qui se passe en ce moment. Ouverte le 4 juillet dernier, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, qui se tiendra finalement jusqu'au 9 août, aura été riche en actualité. Un travail parlementaire qui a démarré sur les chapeaux de roue, avec deux grands projets de loi en discussion, celle autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme du Code du travail, qui vient d'être adoptée, et les deux lois visant à redonner confiance dans la vie politique, qui pourraient être également adoptées mercredi prochain. Efficacité et résultat, ce sont les mots d'ordre de la nouvelle majorité présidentielle incarnée par La République En Marche. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas aussi simple. Absence de leadership et excès de contrôle tout à la fois, la majorité, composée essentiellement de têtes nouvelles, a multiplié les cafouillages et les erreurs. Résultat, des débats houleux, mais pas inintéressants, avec l'opposition qui cherche elle aussi ses marques. Cet été, LCP pourra toujours rediffuser les meilleurs moments de cette première session. En attendant, les députés ont-ils mérité leurs vacances ? Eh bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir avec quatre invités. Ce soir, Manon Rescan, à commencer par vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde en charge du suivi du Parlement. Notre deuxième invité est au téléphone. Il s'agit de Stéphane Rosès. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je crois que vous êtes au téléphone depuis Venise, si je ne me trompe pas.
Absolument.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, président de la société CAP, conseil, analyse et prospective. Notre troisième invité est en duplex depuis Lille, et oui, c'est l'été. Il s'agit de Pierre Mathiot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques et donc, je disais, en duplex des studios de France Bleu Nord. Et notre quatrième invité, il s'agit de Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste chef du service politique de la rédaction de France Culture. Et avant de commencer cette discussion, Pierre Mathiot, vous vouliez préciser quelque chose, que l'on précise quelque chose. Vous êtes donc professeur des universités en sciences politiques, mais vous avez été récemment investi par La République En Marche au sénatorial et puis vous avez finalement retiré cette candidature pour des raisons personnelles, mais vous restez proche du mouvement.
Écoutez, oui, je suis un peu compagnon de route. C'est important de le dire aux auditeurs parce que parfois, vous savez, il y a des universitaires qui viennent parler sur votre antenne et qui ne disent pas ce qu'ils sont par ailleurs dans la vie civile. Donc, je le précise, je vais essayer d'être objectif, mais voilà, il y a ce petit bémol que j'indique au départ de l'émission.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, deux grandes lois à la fois symboliques et techniques en même temps. En un mois seulement, Ludovic Piétenu, est-ce qu'on peut parler d'un rythme particulièrement soutenu pour le travail parlementaire, même en début de législature?
C'est assez classique en début de législature. Il y avait eu ça il y a 5 ans, au début du quinquennat de François Hollande. La même chose, me semble-t-il, dans mon souvenir, parce que j'étais déjà en charge de la couverture de l'activité parlementaire, on va dire, il y a 10 ans. Les sessions extraordinaires, c'est pas extraordinaire. C'est sûr que celle-ci était chargée, au moins parce que deux des textes à l'ordre du jour étaient assez emblématiques, assez forts. Cette loi d'habilitation pour le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme du Code du travail, et puis cette loi de moralisation qui finalement s'est appelée loi de confiance en la vie politique.
Oui, pour redonner confiance
en la vie politique. Voilà, ça, ce sont deux textes de grands marqueurs que veut imprimer Emmanuel Macron dès le début de son mandat. Et c'est vrai que du coup, il a mis une sorte de pression. Hein, il veut faire passer ses premières réformes très vite et montrer aux Français les tout premiers résultats.
Manon Rescan, vous avez suivi nuit et jour, hein, si l'on peut dire. C'est pas une façon de parler. Depuis un mois et demi, les débats à l'Assemblée nationale. Est-ce que, vu de l'intérieur, vous confirmez aussi cette dimension un peu à marche forcée, sans faire de mauvais jeu de mots?
C'est vrai que le gouvernement et le chef de l'État ont voulu aller très vite et en plus il faut se rappeler le calendrier, c'est-à-dire il y a des parlementaires qui ont fait une campagne express de un mois en général, qui sont pas pour une grande majorité pas forcément habitués à ça, qui s'installent dans leur siège de député tout en démissionnant de leurs anciennes fonctions. Je me souviens d'une députée qui me disait, on était le mercredi, elle était élue depuis le dimanche, le lundi elle avait rendu les clés de sa permanence de campagne, le mardi elle signait ses papiers de rupture conventionnelle avec son employeur et le mercredi elle faisait son accueil à l'Assemblée et derrière il fallait enchaîner la répartition des postes, ensuite enchaîner les premiers textes avec des textes sensibles, la loi travail et la loi confiance avec tout un tas de questions épineuses sur lesquelles en plus on a des députés qui avaient envie de travailler manifestement et envie de se positionner les uns les autres.
Vous voulez dire par rapport à d'autres législatures quand vous dites ils avaient envie de travailler, c'est-à-dire
Pour moi c'est compliqué de dire par rapport à d'autres législatures, mais on sent des gens qui ont envie. Enfin moi j'ai rencontré plusieurs parlementaires qui avaient envie de travailler sur tous les sujets, de la loi travail à la loi confiance, qui se préoccupaient du fond du texte qu'ils allaient voter et en même temps en se sentant un peu dépassés par le tempo, par le tempo.
Pierre Mathieu, en comparaison avec d'autres législatures, c'est effectivement un élément important, le fait qu'il y ait beaucoup de députés nouveaux qui peut-être n'étaient pas tout à fait préparés à prendre leur fonction de députés, de parlementaires, ça a ajouté un peu à la précipitation, puis peut-être à la difficulté aussi de trouver ses marques, encore une fois, par rapport à d'autres rentrées de législature, Pierre Mathieu.
Oui, alors d'abord, il faut juste rappeler que s'il n'y avait pas eu de session extraordinaire, que n'aurait-on dit? Puisque au fond, on aurait attendu le 1er septembre, puisqu'on était en fin de session ordinaire, et on aurait évidemment, tout le monde aurait critiqué le nouveau gouvernement, le président de la République, en disant il est élu, il fait rien pendant 2 mois. Donc c'est logique, quelque part, qu'il y ait une session extraordinaire. Alors pour vous répondre, en effet, on est devant une législature qui montre le plus grand niveau, le plus grand taux de renouvellement des élus, à peu près 75% de nouveaux parlementaires, le plus séché La République En Marche, bien entendu. Donc on a affaire à des néophytes. Et j'aurais tendance à dire par rapport à d'autres moments, notamment 1981, qui avait vu aussi un très fort renouvellement des élus, même si à l'époque il n'y avait que 489 députés. Pour ce qui est de La République En Marche, l'une des caractéristiques qui vient d'être un petit peu pointée par Manon Rescan, c'est que beaucoup d'entre eux, n'avaient jamais fait de politique. Voilà. Donc ce sont des doublements des néophytes. Un, c'est la première fois qu'ils sont élus pour une très grande partie d'entre eux. Et pour les mêmes, souvent, c'est la première fois qu'ils s'engagent en politique. Et je crois que même une bonne partie d'entre eux, 2 mois avant la présidentielle, n'était pas en politique du tout. Hein. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui entrent dans le métier politique sans avoir de métier politique au départ. Ce qui par exemple les distingue des gens de la France Insoumise par exemple, parce que le groupe de la France Insoumise, qui est beaucoup moins nombreux évidemment, est également un groupe composé de beaucoup de néophytes, de gens qui n'ont jamais été parlementaires avant. Mais la grande différence, c'est que chez eux, y compris chez les plus jeunes d'entre eux, qui ont moins de 30 ans, on a affaire à des militants aguerris qui font de la politique depuis longtemps, qui ont déjà du métier politique. Et je pense que c'est l'une des distinctions qu'on peut opérer entre le groupe La République En Marche, qui est très nombreux, 310 élus, et les autres groupes, qui sont eux aussi des groupes qui sont composés de parlementaires, de néophytes, de nouveaux parlementaires, mais qui souvent ont déjà du métier politique.
Alors pour s'arrêter un instant, et on va pas y passer toute l'émission, mais sur ces accusations en amateurisme qu'on a entendues depuis un mois envers les députés nouveaux, et effectivement en particulier envers les députés d'En Marche, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie? Stéphane Rosès a les accusés d'amateurs à partir du moment où, effectivement, depuis des années, on critique une classe politique trop professionnelle, trop politicienne.
Oui, effectivement, soyons conscients que la période qui vient de se dérouler en France a voulu, on le voit par le taux de participation, qu'au fond, la nation, dans sa diversité, soit d'abord représentée par le volontarisme présidentiel. Et donc, pour les Français, le grand moment, ça a été d'abord la présidentielle au travers d'une incarnation de ce qui tient ensemble la nation. À partir de ce que le président Macron rappelait devant les parlementaires au Congrès, que le premier mandat qui avait été confié, c'était le retour de la souveraineté nationale. Les députés sont, pour les Français, c'est de ce point de vue-là que je répondrai d'abord, sont pour les Français les représentants de la nation en charge de mettre en œuvre le propos du président. Et vous l'avez dit, on l'a dit ensemble, les deux moments parlementaires sont symboliquement forts. La restauration de la confiance, puisque le président Macron a dit au pays, vous n'êtes pas les responsables de la dépression française. Le responsable, c'est le personnel politique. Et pour nous mettre en marche, et évidemment la réforme du Code du travail est symptomatique pour le président Macron, il va falloir opérer une modification au sommet d'État. Alors, évidemment, il peut y avoir, je dirais, un peu hypocrisie, parce que effectivement l'opinion pense, alors selon moi elle exagère, c'est tout à fait à tort, que ce qui dysfonctionne en France, c'est la mauvaise représentation politique. Et Emmanuel Macron, le président Macron ensuite, a surfé sur cette idée. Et donc l'arrivée de nouveaux députés, de députés plus jeunes, plus féminins, plus issus de la société civile, a plutôt été pris positivement par l'opinion. Le reste, ce dont nous discutons, le fait qu'il y ait une semaine supplémentaire, au fond, pour les Français, c'est la machinerie parlementaire qui les intéresse pas trop. Les Français pensent que si la représentation nationale les représente mieux dans leur diversité, même s'il y a amateurisme, ce sera mieux que l'ancien temps, parce que quand même, il y a encore un espoir, encore une attente que le pays et l'État et le sommet de l'État et la représentation nationale se mettent en mouvement.
Alors un amateurisme qui n'est pas si mal perçu par la population, Manon Rescand, vous, depuis l'intérieur du Parlement, comment est-ce que vous avez perçu donc l'attitude, le comportement des députés, des nouveaux députés de La République En Marche, et est-ce que ça vous a choqué, ou est-ce qu'il y a des choses où vous les avez trouvées particulièrement perdues, ou est-ce qu'on en a fait peut-être un petit peu trop un sujet médiatique?
Il y a eu plusieurs moments où effectivement on a sorti des députés perdus. Je pense que l'image la plus frappante, la frappante en la matière, ce sont ces présidents de séance qui sont au perchoir, donc qui sont des députés qui viennent suppléer au président de l'Assemblée nationale pour diriger la séance, qui étaient tous des nouveaux députés pour ces vice-présidents, et qui sont assis au perchoir avec des hauts fonctionnaires de l'Assemblée qui viennent régulièrement leur glisser à l'oreille des conseils, pour ne pas dire des consignes, parce que je ne sais pas ce qu'ils leur disent précisément de comment répondre, comment diriger la séance. Donc c'est un moment où on a l'impression que effectivement ces personnes sont perdues, et c'est à ce moment-là où l'opposition en fait sent une fragilité et rentre dedans et vient rentrer dans ce jeu-là. Et en fait c'est ce que j'ai aussi perçu, c'est qu'il y avait un jeu de surenchère, c'est-à-dire il y a une brèche, il y a un député qui disait ils ont senti le sang, et la meute a senti le sang et elle s'est ruée dedans. Et donc, à la moindre hésitation sur certaines présidences, on a senti une volonté de... une tentation de surenchère aussi de la part de l'opposition pour signaler à gros traits des moments où ça ne fonctionnait pas comme eux avaient l'habitude de le voir fonctionner. Ce à quoi la République En Marche rétorque, il y a toujours eu des moments de flottement. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'Assemblée qu'il y a des moments de tension de ce type.
Ludovic Pietenu, vous avez l'impression aussi que l'opposition, quelle qu'elle soit, puisqu'elles sont nombreuses, les oppositions à l'Assemblée nationale, a fait de la surenchère sur cette question des hésitations des nouveaux députés. Et puis on peut imaginer qu'ils ne vont pas tenir pendant 5 ans sur cette ligne d'opposition.
Non, sur ce seul registre-là, oui, de la forme finalement, et puis de l'accusation en amateurisme. Non, c'est certain qu'ils ne tiendront pas 5 ans là-dessus. C'est une forme de bizutage aussi, parce que ils ont l'habitude, je sais pas, même par exemple des pas si vieux députés, je parle en ancienneté, hein, dans l'hémicycle, Olivier Faure par exemple, qui est le président du groupe Nouvelle Gauche, qui dit nous on n'a plus l'âge, hein, sous-entendu, voilà, on a vécu, alors qu'il n'est pas, hein, Olivier Faure, c'est un quadrat, hein. On n'a plus l'âge, où sont les gens qui connaissent ici le règlement, cette assemblée elle est ridicule. Donc on sent bien qu'il est effectivement un petit peu dans l'outrance, dans l'exagération au moins. C'est sûr qu'il y a eu des moments de séance assez houleux. Moi je me suis renseigné auprès de Sacha Houlier, qui est un de ses vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il y en a 6 qui peuvent suppléer le président François de Rugy. Sacha Houlier, il est né en 1988, donc on pourrait très bien dire il est inexpérimenté, trop jeune. jeunes, etc. Sauf que Sacha Houlier, il a, comme ses autres collègues, regardé des vidéos de présidence de séance pour savoir comment s'organiser une séance, comment, dans quel ordre on devait distribuer la parole au gouvernement, aux rapporteurs, et puis comment chacun devait, chaque groupe devait défendre ses amendements, etc. Il s'est formé en accéléré. Là, on parle aussi d'individus. On ne va pas essentialiser les marcheurs et les marcheuses et les marcheurs. On n'est pas en train de juger les marcheurs dans leur globalité, mais plutôt, pour moi, tel ou tel qui a plus ou moins de difficultés à asseoir son autorité.
Avec Emmanuel Macron, président de la République. Vous savez, c'est comme un peu dans la lettre volée d'Edgar Poe. Parfois, c'est ce qu'on a le plus de, sous les yeux qu'on aperçoit le moins. Et là, il y a quand même comme un caractère grotesque, pour moi, à avoir une loi de rétablissement de la moralisation ou de la confiance avec Emmanuel Macron, président de la République. Quelle est la carrière, quel est le début de carrière d'Emmanuel Macron? Il faut quand même le rappeler, puisqu'on parle de pantouflage. Il s'agit... Ah ben oui, mais non, mais ça vous plaît pas, mais rappelons-le, il était membre de la commission Attali, et c'est en tant que membre de la commission Attali, en fréquentant notamment Serge Weinberg, qui aujourd'hui est PDG de Sanofi, qu'il a pu entrer chez Rothschild. Que nous dit-on dans les biographies d'Emmanuel Macron? Que nous disent les banquiers d'affaires? Ils disent, ce qu'on achète, c'est un carnet d'adresses. Ce que Rothschild est venu acheter avec Emmanuel Macron, c'est le carnet d'adresses qu'il s'est fait auprès de la commission Attali. Le principal deal d'Emmanuel Macron chez Rothschild, ça a été Nestlé. Que nous dit-on, puisque il avait fréquenté le PDG de Nestlé à la commission Attali, que nous dit-on dans ce biographie? Il a négocié un seul deal important apporté sur un plateau par la commission Attali. Donc là, on est en vérité dans une privatisation. On est dans une privatisation via le pantouflage. C'est comme la lettre volée. C'est le nez en plein milieu de la figure. Mais là, on est dans un cas de pantouflage qu'il s'agit de faire interdire pour la suite. Je reviendrai pour un épisode 2 plus tard. Merci.
Merci, monsieur Ruffin. Emmanuel Macron n'était pas mon candidat. Et pourtant, aujourd'hui, il est président de la République. Et l'usage qui a toujours prévalu dans cette assemblée était qu'on ne mettait pas en cause le président de la République. Alors soit on considère qu'il n'y a plus d'usage en cette maison, qu'on peut se vêtir comme on veut, qu'on peut se tenir comme on veut, qu'on peut apporter dans l'hémicycle ce qu'on veut, mais à ce moment-là, il faut acter le fait qu'il n'y a plus de règles dans cette assemblée.
Voilà, échange le 26 juillet 2017, donc entre François Ruffin, le député de la France Insoumise, et Annie Genevard, députée Les Républicains. Ce qu'on voit, alors il y a effectivement le fond de ce que aborde François Ruffin, mais c'est surtout là dans cet échange, on le voit dans la réplique de Annie Genevard, un peu cette accusation faite au nouveau de désacraliser un petit peu l'Assemblée nationale. Stéphane Rosès, est-ce que cette dimension sacrée de ce lieu, au lieu de la démocratie française, est-ce que vous avez eu aussi cette sensation qu'avec cette nouvelle session parlementaire, on portait atteinte à certains usages, certains codes, et que c'était dommageable quelque part?
Il y a une contradiction très nette entre le fait que, selon moi, de son propre point de vue, à juste titre, le président Macron veuille, contrairement à son prédécesseur et à ses prédécesseurs, en tout cas les deux derniers, restaurer la fonction présidentielle dans sa dimension symbolique, spirituelle, nonobstant le type de politique qu'il promeut, mais conscient que dans une société inquiète ou en dépression, au fond, la question de la représentation dans sa dimension séculaire veut dire que l'homme politique, l'élu, président ou député, n'est pas le propriétaire de sa fonction. Il est au service de quelque chose qui le dépasse. Et d'autre part, vous venez de le dire, le fait que, notamment dans la France insoumise, mais aussi des tenues vestimentaires très étonnantes, là j'ai vu une présidente de commission de loi La République en marche, dans une tenue genre t-shirt, vous voyez. Donc il y a une sorte de relâchement. Alors on peut dire que c'est un effet de génération pour certains jeunes députés dans La République en marche, que c'est une volonté d'affichage politique pour la République, pour la France insoumise, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a ce petit hiatus. Alors, rappelons que l'opinion, elle, est très attachée, contrairement à ce que l'on pourrait penser, aux us et coutumes traditionnelles. C'est-à-dire que, en rien pour les Français, le fait d'être en tenue débraillée ou casual day, comme on dit dans le monde du travail, ne serait symptomatique du fait fait qu'on serait plus proche des Français, des vrais gens ou des catégories populaires. Hein. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un pays anglo-saxon et pour les Français, il y a une sacralisation de la vie politique. L'homme politique n'est pas à son service, au service d'une catégorie sociale ou d'une génération. Il est au service de l'idée que chacun se fait de la façon dont la politique doit être portée en majesté, que l'on soit, je dirais...
Ah, je crois qu'on vous a perdu. On va tenter de vous rappeler dans un instant, même tout de suite, Stéphane Rosès, pour continuer sur cette question de la désacralisation, des coutumes qui ne sont pas tout à fait respectées, Manon Rescant.
C'est vrai que c'est quelque chose, c'est de présent depuis le début de la session. Est-ce qu'on peut venir en basket ou pas à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut mettre une cravate ou est-ce qu'il ne faut pas mettre de cravate? Est-ce qu'il faut mettre une veste par-dessus sa chemise ou pas? Finalement, quand on regarde bien les rangs, c'est quelque chose qui ne fait pas consensus qui n'est pas le monopole de la France insoumise pour le coup, parce que énormément de républicains en marche viennent de moins en moins avec une cravate, de moins en moins avec une veste.
Et puis c'est vraiment le faux débat de l'été. Hein,
mais c'est un peu, peut-être que ça fait partie de ces débats d'un autre. Est-ce que ça fait partie des débats d'entre-temps? Ça fait pas. Personnellement, je ne connaissais pas l'Assemblée avant. Je suis arrivée avec ça, avec la nouvelle législature. Dans le fond, je crois que les débats montrent bien que ce qui fait l'essence de la vie politique ne tient pas à une cravate ou à une veste. Je crois que il y a tout un tas d'autres canons qui sont là et qui font que le débat politique existe à l'Assemblée. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut.
La question des tenues vestimentaires n'est effectivement pas l'aspect sur lequel on voulait insister, mais peut-être sur la manière, et on l'a entendu dans l'extrait avec François Ruffin, la manière de prendre la parole, la manière peut-être d'invectiver les ministres et le président lui-même. Est-ce que vous trouvez, Ludovic Piétonnier, que ça abîme le débat parlementaire ou au contraire, quelque part, que ça vient mettre un air nouveau et que ce chaos, quelque part, vient renouveler aussi un petit peu le fond?
Oui, moi je pense que ça ne peut que rapprocher les électeurs et le citoyen de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense vraiment sincèrement que c'est utile aujourd'hui. C'est ça qui compte. Enfin, je pense. Moi, c'est sûr qu'il y a des prises de parole qui sont un petit peu maladroites. On peut citer des noms. Je sais pas. Même au sein de la France insoumise, on parlait de l'expérience militante de ces élus. Ça n'en fait pas pour autant nécessairement des excellents orateurs. Daniel Obono, par exemple, ne m'a pas bluffé pendant un peu plus d'un mois dans ses prises de parole. François Ruffin aussi, on l'a entendu, c'est quand même hésitant, c'est laborieux. Après, ce qu'il y a, c'est dans le ton, effectivement, c'est une forme de proximité. Alors ça peut être un petit peu démagogue, mais ça a peut-être le mérite de rapprocher les citoyens de la Chambre et de leurs représentants.
Pierre Mathieu, l'une des promesses de cette Assemblée nationale quand elle a été élue, c'était qu'elle redevienne quelque part un lieu de débat grâce au renouvellement. Est-ce que vous, un mois plus tard, vous avez l'impression que l'Assemblée nationale est davantage un lieu de débat qu'elle ne l'était auparavant ?
Moi, je proposerais de prendre un peu de profondeur historique aussi, parce que là, on est focalisé sur ce qui se passe depuis un mois. On oublie peut-être aussi un point important, je crois, c'est que désormais, tous les débats sont retransmis par la chaîne parlementaire, mais relayés presque en direct. Donc, ça veut dire qu'il y a une visibilité et un écho extrêmement important du moindre débat qui a lieu, de la moindre discussion qui a lieu à l'Assemblée. Et les parlementaires, notamment d'opposition, le savent, et savent qu'en trustant la parole, qu'en utilisant éventuellement des propos un petit peu provocateurs, et ben il va y avoir un relais et un effet de diffusion dans l'espace médiatique. Donc ça, c'est très important. Faut pas oublier non plus que vous parliez des manières de s'apostropher à l'Assemblée. Attendez, quand vous relisez l'histoire de la Chambre des députés, attendez, la manière dont Xavier Vallat avait traité Léon Blum de sale juif en 1936 lorsque Léon Blum était devenu président du Conseil. Enfin, vous imaginez, hein, si on met de la profondeur historique, il y a eu des joutes, la Chambre des députés devenue Assemblée nationale a été un lieu d'affrontement terrible. Ce qui a changé, je pense quand même, c'est que c'était l'essentiel des députés étaient des tribuns. C'était les métiers dont on disait du verbe et de la plume, c'était souvent des avocats, des journalistes, des gens qui savaient très très bien s'exprimer. Comme ça a été dit par Ludovic Piétonnier, aujourd'hui, parfois, on entend des arguments qui sont quand même pas très très bien exprimés dans la forme et sur le fond, mais je pense que le Parlement a toujours été un lieu de d'affrontement, d'opposition. Au moment de 1981, le débat sur la nationalisation, ça a été terrible. Au moment de la loi Taubira, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, les débats ont été extrêmement accrochés et violents. Donc je pense que, de ce point de vue, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé probablement, c'est le fait qu'il y a un effet de masse de nouveaux députés inexpérimentés, et que c'est sur cet effet, enfin sur cette situation-là, que l'opposition, qui cherche quand même à peser, il ne faut pas oublier que l'opposition aujourd'hui, elle est complètement écrasée. Il y a une majorité très très large, et l'opposition cherche à exister en utilisant les arguments de forme, la tenue vestimentaire, le fait d'attaquer le président de la République alors que ça ne se fait pas dans les usages de l'Assemblée nationale, etc., etc. Mais sur le fond, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Sauf une chose quand même sur laquelle j'insiste parce que le temps passe, c'est que je pense qu'au démarrage de la législature à l'Assemblée nationale, dans la répartition des responsabilités, présidence du groupe En Marche, vice-présidence, présidence des commission, il y a eu peut-être un tout petit peu d'amateurisme de la part d'En Marche, et on a désigné à ces fonctions-là, qui sont des fonctions quand même d'intermédiaire, d'intermédiation, des gens qui manquaient singulièrement d'expérience. Les 6 vice-présidents actuels n'ont jamais été députés avant, la plupart des présidents de commission n'ont jamais été députés avant, or il faut avoir un petit peu d'expérience sur ces postes-là au moins. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui en quelque sorte prennent un petit peu la main, guident un peu les nouveaux élus, au risque que finalement, ces élus qui sont les représentants de la nation soient placés en quelque sorte sous la férule ou l'autorité de technocrates de l'Assemblée qui n'ont aucune légitimité démocratique.
Mais précisément sur cette question, les uns les autres, si on part de l'idée qu'on ne naît pas député, qu'on le devient, qu'est-ce qui est prévu, ne serait-ce qu'en termes de formation, tout simplement, à l'Assemblée nationale pour accompagner les nouveaux venus?
Si je peux truster la parole, je pense, l'un des problèmes en réalité, c'est que les élus commencent à travailler trop vite.
C'est-à-dire qu'en gros, dire qu'il aurait fallu un temps d'un peu plus long entre l'élection et cette première session.
Beaucoup des élus, moi je suis allé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, j'ai été frappé d'une chose, c'est l'épuisement des élus, parce que ça a été dit tout à l'heure également, beaucoup des élus, notamment de En Marche, ont fait la campagne d'Emmanuel Macron, ont embrayé sur la campagne législative, donc sont en campagne depuis un an. Ils ont été élus 8 jours après, ils étaient installés, on élisait les vice-présidents, on élisait les présidents de commission, etc., etc. Et 8 jours après encore, ils commencer à travailler. Donc il y a une forme d'épuisement et ils ont commencé à bosser sans connaître le job, le rôle, si vous voulez. Hein. Et je crois que ce qu'il faudrait peut-être arriver à faire un jour, un petit peu sur le modèle des États-Unis ou que sais-je, c'est de dire il se passe un mois pendant lequel, eh bien effectivement, on forme les parlementaires. En Marche l'a fait pendant simplement un week-end qui en réalité s'est transformé en 2 demi-journées où des spécialistes sont venus expliquer aux nouveaux députés comment ça allait se passer. Mais ensuite ils ont été immédiatement embarqués dans les débats, bizutés évidemment, et en plus dans des débats qui avaient un degré de technicité assez élevé qui a fait que beaucoup de députés ont été un petit peu perdus, alors même que je crois ils sont très motivés pour jouer ce rôle de législateur, mais ils sont un petit peu dépassés par l'intensité des débats.
Manon Rescan.
Oui, c'est vrai que ce qui est frappant en discutant ces derniers jours avec les députés, certains disent ça y est, j'ai enfin compris comment je pouvais prendre la parole dans l'hémicycle, je peux juste lever la main. Je peux juste lever la main et on prend mon tour de parole. Et puis ils ont commencé avec le texte de la loi travail. Il y a aussi quelque chose qui est important dans la constitution des groupes, qui est les cadres du groupe, les collaborateurs du groupe. Certains ne sont pas tous recrutés, c'est-à-dire que sur la loi travail, les groupes n'étaient pas totalement au complet. Donc ce sont ces collaborateurs qui aident à la rédaction des amendements, qui en font un peu qui mettent un peu d'huile dans les rouages. Et tout ça n'existait pas. On a beaucoup reproché sur la loi travail que les députés soient pas force de proposition d'une part et ensuite qui rejettent tous les amendements de l'autre, mais ça tenait aussi ça tient d'une part à quelque chose qui est constitutif d'un groupe majoritaire qui s'installe, etc., et puis aussi de fait que tout un tas de réflexes, tout un tas ne sont pas acquis, pas encore intégrés. Là on sent que petit à petit les choses se font, ils ont fait beaucoup plus de prises de parole dans l'hémicycle sur la loi moralisation confiance, ça avance, mais c'est vrai qu'ils ont été propulsés dans ce bain-là tout à coup.
Stéphane Rosès, je crois qu'on vous a retrouvé, vous êtes à nouveau en ligne. Tout à l'heure, Pierre Mathiot parlait de l'importance des vidéos qui ont changé quelque chose dans la propagation du débat à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine vers un type de débat où la parole, et notamment la parole des groupes minoritaires, va quelque part un peu changer de statut, qu'elle visera à l'avenir moins à convaincre les autres députés de faire adopter un amendement ou de changer d'avis, mais plutôt à convaincre à l'extérieur, enfin à convaincre en tout cas à exister à l'extérieur auprès des électeurs?
Oui, ça a toujours été un peu le cas, notamment lors des sessions du mercredi. Les députés savaient très bien qu'ils devaient y intervenir, de sorte qu'ensuite ils reviennent sur leur terre, leur circonscription, pour en tirer un bénéfice maximal. Mais Pierre Mathiot a raison d'indiquer que les retransmissions des nouveaux médias, bien sûr, chaînes parlementaires, mais aussi réseaux sociaux, et puis le fait que la gauche de la gauche ou le Front National aussi souhaite au fond mener une bataille à l'intérieur du Parlement qu'il considère comme un relais soit du pays réel pour le Front National, soit des luttes sociales. Et donc, du coup, ils vont utiliser, ça a été dit, tous les moyens, nonobstant la force pléthorique du groupe majoritaire, pour se mettre en mouvement. Donc, ils vont utiliser tout ce que sont les petits à peu près de maîtrise de la technique parlementaire. Vous en avez, à juste titre, beaucoup parlé. Ce à quoi il faut rappeler la chose suivante. La technique parlementaire est au service d'une orientation, d'un combat et d'idéaux politiques. Or, le propre du groupe parlementaire En Marche, c'est qu'il n'est pas encadré politiquement et mentalement par une idéologie constituée forte, on le sait. Ils aspirent au dépassement entre la gauche et la droite, de sorte que l'acquisition de la technique apparaît de façon très ardue. Il n'y a pas les réflexes idéologiques qui font que la technique parlementaire vont être étayée dès le départ par une nette clarté de où on va et qu'est-ce que l'on fait. Au fond, le député La République En Marche doit sans cesse penser autour de l'idée que veut le président Macron, de sorte qu'ensuite chacun est très attentif à travailler sur le contenu. Ça a été dit très justement tout à l'heure, il y a de la part de ces députés En Marche une très volonté de rentrer dans le fond du débat, parce que ce ne sont pas des idéologues au sens français traditionnel du terme. Ils veulent peser de façon empirique, réaliste, concrète. Et donc, leur échoua tout un tas, en cette rentrée, ça a été très bien dit pourquoi, leur échoua tout un tas de charges où ils doivent acquérir à la fois la technique minimale, que clairement ils n'ont pas, et à la fois de se constituer chemin faisant l'idée de concrètement ce que serait la cohérence gouvernementale et présidentielle.
Et j'avoue que le comportement des députés de La République En Marche dans l'hémicycle, en commission, fait craindre un panurgisme parlementaire qui effacerait toute capacité de débat.
Ça veut dire quoi, disons, clairement, c'est béni oui-oui, en fait.
Écoutez, ils suivent, ils n'interviennent pas, ou peu, ou pas. Ils suivent aveuglément ce que dit le ministre, etc. Le boulot parlementaire, c'est pas de suivre le ministre, c'est de le contrôler, c'est de l'impulser, c'est de corriger le tir, c'est de débattre avec lui. Et pour l'instant, c'est vraiment pas ce qu'on a vu. Et deuxième chose, il y a une espèce de fermeture absolue à tout amendement. Et c'est le rôle essentiel du Parlement de modifier le texte de loi qui ne viendrait pas de chez eux. Je le dis parce que, je disais tout à l'heure, leur défi, c'est est-ce qu'ils s'enferment entre eux.
C'est quoi, c'est
si en plus ils s'enferment entre eux et que c'est totalement caporalisé entre eux, il y en a même qui commencent à se plaindre un peu. C'est pas risque. On est au début. J'espère que rapidement ils vont évoluer et qu'ils vont découvrir ce qu'est le Parlement. Mmh. Le Parlement, c'est un lieu où on débat et où on accepte parfois qu'on n'avait pas raison au début et qu'on corrige le tir.
Voilà, Jean-Christophe Lagarde, député UDI, c'était le 11 juillet dernier. Est-ce qu'on peut dire, Ludovic Piétenu, que durant l'ancienne législature, on va dire toute la classe politique a été quelque part traumatisée par l'épisode des frondeurs sous Hollande et que là, l'objectif à tout prix de La République En Marche, c'est avoir des députés qui ont le doigt sur la couture du pantalon.
Ouais, pour l'instant, c'est le cas. C'est vrai que l'expression de Béni Oui-Oui est ad hoc. Mais je j'ose l'espérer, qu'elle ne durera pas. Vraiment, faut le souhaiter même pour la vie démocratique du pays. Je rejoins là-dessus ce que vient de dire effectivement le son que vous venez de diffuser de Jean-Christophe Lagarde. C'est vrai que ce n'est pas comme cela qu'on construit la loi et c'est pas ça qu'on attend des députés. En même temps, on l'a dit précédemment, ils ne savent pas construire la loi. Ils doivent apprendre en marchant. Donc, on peut espérer que dans quelques mois, ils l'ont dit, ils ont promis que sur le débat budgétaire cet automne, ils feraient un petit peu entendre leur voix. Il y a toujours eu des frondeurs de toute façon. Donc, il y aura toujours des gens à l'intérieur d'un groupe autant majoritaire que celui-ci, aussi gros que celui-ci, pour aller contre un avis. On l'a vu d'ailleurs, ça a commencé à s'exprimer un tout petit peu sur la morale. Sur le texte moralisation, il y a eu une 13 ou 14 députés de La République En Marche qui ont osé un tout petit peu sortir du sentier tout tracé.
Pierre Mathieu, les députés de La République En Marche répondent en disant que s'ils n'acceptent pas les amendements de l'opposition, c'est parce qu'ils ont un souci d'efficacité, de résultat. Est-ce que cette culture du résultat, elle risque pas en même temps de mettre en péril la culture du débat qui est propre à l'Assemblée nationale ?
Alors, encore un peu de profondeur historique cette fois-ci. Quand on parlait des députés gaullistes, c'était les Godillot. Quand en 1980, Pierre Joxe dirigeait le groupe socialiste, qui était pléthorique, qui était majoritaire, je peux vous dire que ça a tracé droit, hein, alors qu'on avait affaire à des, pour le coup, des élus qui étaient expérimentés, souvent c'était des maires, etc. Donc,
vous voulez dire que c'est pas nouveau.
Mais non, le groupe majoritaire, il est sous contrôle. Après, bien entendu, ça n'empêche pas que au moment de voter, on vote bien, mais que avant de voter, on débat, on peut s'opposer, on peut avoir des nuances. Ça va venir. C'est évident que ça va venir. C'est une question d'acculturation. Le problème, c'est que ces députés, comme l'a dit Stéphane Rosès, n'ont pas de position idéologique. Ils sont pragmatiques, comme le président de la République ou comme le Premier ministre. Donc, ce qui fait que parfois, par rapport à un texte, ils peuvent être tentés d'être d'accord avec ce qu'est en train de dire quelqu'un de la France insoumise et ils savent pas trop comment se comporter. Mais ils vont, ça va, j'en suis sûr, évoluer pour une raison extrêmement simple. C'est qu'une bonne partie de ces députés sont des gens qui n'ont pas de culture politique, n'ont pas de culture partisane n'ont pas nécessairement la volonté de faire carrière en politique. Donc ne sont pas nécessairement sensibles à l'idée qu'il faut se taire durablement pour pouvoir ensuite être réélu en étant investi par son parti. Donc moi je pense que dans les mois qui vont venir, au fur et à mesure que ces élus vont prendre de l'expérience, après s'être reposés pendant 3 semaines là, et ils vont revenir après, ils vont avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, ils vont avoir la chance qu'a Monsieur Lagarde, qui s'exprimait tout à l'heure de manière un peu condescendante, d'avoir maintenant de l'expérience, parce que pour avoir de l'expérience, il faut que le temps passe, hein. On peut pas avoir de l'expérience au bout de 15 jours, et je suis sûr qu'une partie des députés En Marche vont se distinguer sur tel ou tel texte. Alors est-ce qu'ils vont se distinguer au point de faire comme les frondeurs du PS il y a un an et demi, en carrément déposant une motion de censure, je ne crois pas, mais c'est clair que sur certains textes, on aura des tendances au sein d'En Marche qui se feront jour, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, dans ces 310 députés, on a des gens qui ont une sensibilité de droite, de gauche, centriste, et donc je pense que petit à petit, certains d'entre eux vont s'autonomiser.
Manon Rescand, vous avez aussi l'impression de députés pris en tenaille avec d'un côté une discipline de parti qui est normale, comme l'a rappelé Pierre Mathieu, et en même temps, pour reprendre une phrase bien à la mode, des députés qui sont fondamentalement pragmatiques et qui auraient eu la tentation de se faire convaincre, mais qui sont d'un côté pris aussi dans une discipline de vote. Vous l'avez constaté, ça, cette tension ?
Cette tension, elle existe. En fait, il y a aussi, effectivement, le traumatisme des frondeurs, il est évident, et avec l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu entre être un godillot et un frondeur. Or, ce juste milieu, il existe, il est d'enrichir la loi. Je crois que de tout temps, les majorités ont... L'épisode du mandat précédent étant particulier, mais on suivi quand même le gouvernement. Leur travail étant d'enrichir, ajuster, virer sur l'aile sur certaines choses. Mais cette présence de spectre des frondeurs fait qu'en plus le parti et le fait qu'il faut tenir ces nouveaux députés qui connaissent pas forcément toutes les règles fait qu'il y a une forte autorité du groupe en leur disant par exemple ils doivent soumettre tous les amendements individuels au groupe avant de les présenter. Il y a pas d'autonomie de présentation d'amendements.
Ça, c'est nouveau.
C'est totalement nouveau et c'est presque une hérésie. Ils n'ont pas le droit non plus de co-signer des amendements avec d'autres groupes. Même les constructifs Juifs, par exemple, qui sont, on le sait, un groupe a priori plutôt allié à la majorité d'En Marche. Donc, moi, ça me paraît complètement aller contre tout ce qui se faisait avant. Ça, c'est nouveau et c'est, me semble-t-il, un tout petit peu dangereux. Le point positif, quand même, parce que moi, j'ai tendance à être un petit peu négatif là sur ce premier mois, gros mois de Parlement, parce que c'était quand même un petit peu embêtant de regarder ces débats. Manon Rescand, vous les avez suivis assidûment. C'était un peu lisse, quoi, hein, quand même. Souvent, il y a eu
des débats houleux aussi.
Il y avait du, on l'a dit, ça a bizuté, etc. Il y a eu des échanges, des anathèmes.
Sur le contenu, vous avez trouvé ça lisse.
Mais sur le déroulé de la séance, du texte, quoi, ça a avancé de façon très linéaire. C'était vraiment tout tracé. Le changement positif, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, et ça va durer, c'est grâce à la loi sur le non-cumul des mandats, qui a été votée sous le mandat précédent, c'est la présence des députés. Ça fait plaisir de voir un hémicycle plein, et pas seulement plein, le mardi et le mercredi après-midi quand c'est retransmis à la télévision. Et encore, ça ne va plus l'être hein, sur France 3. Vous savez que ça, c'est aussi une nouveauté. Le service public, en tout cas la grande chaîne de service public France 3, ne le diffuse pas et ça va se retrouver uniquement sur la chaîne parlementaire. Bon, mais il y a tout un tas d'accès hein, à cette information. On l'a signalé en début d'émission. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, il y a du monde dans les séances, pour les débats, la nuit. Il y a du monde en commission. Manon Rescand a écrit dans un de ses articles récemment qu'il avait même fallu pousser les murs, je crois. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. Ça fait plaisir.
Stéphane Rosès, pour continuer sur le lien entre La République en marche et puis l'exécutif, enfin pour ne pas dire le président de la République lui-même, on voit bien à quel point les députés sont redevables hein, d'un certain label, le label En Marche, le label Macron pour leur élection, mais d'un autre côté, le président lui aussi est redevable de la présence de cette majorité et de leur élection. Comment est-ce que vous voyez ce lien de dépendance et comment vous le voyez évoluer pour les 5 années à venir ?
Je crois que la légitimité de la majorité actuelle est du sommet de l'État vient essentiellement de la légitimité présidentielle. C'est pas faire injure aux députés La France en marche que de dire qu'il suffisait d'avoir près de soi le portrait d'Emmanuel Macron sur les affiches ou les tracts pour être dans une situation où l'élection pouvait être acquise, hein, sauf en crash fort ou histoire politique forte au plan local. Donc tout le pouvoir procède d'Emmanuel Macron. C'est l'occasion de rappeler ce que vous savez, ce qu'on sait tous, que les députés reviennent en circonscription. Et donc l'avenir dépend de deux choses, ça a été dit très justement, la capacité des députés par le métier d'enrichir la loi, et puis il y a une autre chose, c'est l'autonomisation possible du groupe parlementaire. Il ne dépend que de l'écart éventuel entre la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron pour restaurer la souveraineté nationale, c'est nous qui décidons de notre avenir, et une politique gouvernementale, on l'a vu sur la démission du chef d'état-major, les APL, d'autres sujets, peut-être même la réforme du marché du travail, un fonds de politique gouvernementale et de justification laissant à penser que ce sont des contraintes extérieures, notamment européennes, qui limiteraient justement le retour de la souveraineté nationale. De cette contradiction, qui sera sans doute résolue après les législatives allemandes ou non, va dépendre, me semble-t-il, l'autonomisation éventuelle du groupe majoritaire pléthorique, même si vous l'avez dit, ils ne doivent pour la plupart leur élection qu'au président Macron, mais justement parce que le président Macron n'aurait pas trouvé les moyens européens et nationaux de faire en sorte que ça soit nous qui décidions du fond de ce que nous voulons pour la France.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Rosès, ce sera la conclusion de cette émission. Merci infiniment à tous les quatre, Manon Rescand, Stéphane Rosès, Pierre Mathiot et Ludovic Piétenu d'avoir participé à cette émission. Merci à Yves-Éric Paquet et aux équipes de France Bleu Nord à Lille pour la liaison en duplex et les références de vos ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres. C'est comme toujours sur franceculture.fr à la page Du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Isolte Sicard, Pierre Testard, Philippine Lebray, Cédric Fuentes et Juliette Montilly. Réalisation Romain Masson, prise de son Bruno Gagnère-Fontanil.